Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le prince saoudien Mohamed Ben Salman est de nouveau ciblé, 4 mois après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Alors que de nouvelles informations paraissent dans le New York Times ce matin, l'ONU estime officiellement que le journaliste a été victime d'un meurtre commis par des officiels saoudiens. Nous y reviendrons dans un instant.
Nous analyserons ensuite les causes du départ précipité de l'ambassadeur français à Rome. Paris accuse l'Italie d'ingérence.
Dans ce journal encore, vous entendrez pourquoi le parquet national financier a ouvert une enquête à propos d'un contrat passé avec un oligarque russe, contrat auquel Alexandre Benalla aurait participé quand il était encore à l'Élysée.
Quelle place pour les femmes en politique à l'heure d'un procès pour diffamation intenté par l'ancien député Denis Baupin, accusé d'agression sexuelle dans les médias? L'Assemblée organise un débat plus large sur les femmes en politique et cela n'a pas été facile, vous le comprendrez.
Dans un gros quart d'heure, Frédéric Seyss se penchera dans son billet politique sur l'Europe. L'Europe victime, dit-il, des petits calculs politiques nationaux. Pour le New York Times, c'est la preuve la plus détaillée à ce jour que le prince héritier saoudien a envisagé de tuer le journaliste Jamal Khashoggi. Mohamed Ben Salman, le prince saoudien, aurait menacé le journaliste en 2017. Selon le New York Times, il se serait dit prêt à utiliser une balle contre le journaliste, et ce s'il continuait à critiquer le régime. Ces propos de MBS ont été interceptés par les renseignements américains. Voilà ce que précise le New York Times dans sa dernière édition. Et ce, alors que dans le même temps, la mission d'enquête de l'ONU incrimine également les officiels de l'État d'Arabie Saoudite. Les enquêteurs parlent d'un meurtre brutal et prémédité, Grégory Phillips.
La rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires a enquêté pendant une semaine en Turquie et à l'issue, sa conclusion est sans appel.
Il s'agit bien d'une exécution arbitraire mise en œuvre par des représentants du Royaume d'Arabie Saoudite, ça aussi, ça ne fait aucun doute.
Agnès Calamar a notamment eu accès aux enregistrements audio du meurtre perpétré le 2 octobre dans les locaux du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Glaçant et épouvantable, témoigne-t-elle. La rapporteure dit aussi que Riyad a tout fait pour ralentir le travail des enquêteurs.
Les Turcs n'ont eu accès au consulat et à la résidence du consulat que 13 et 15 jours après l'exécution du meurtre. Ils n'ont eu accès à cette scène de crime que pendant 24 heures, à la suite des mesures prises par le Royaume d'Arabie Saoudite. Et pour moi, ça c'est un aspect primordial qu'il faut bien mettre en avant.
La mission d'enquête de l'ONU rendra son rapport définitif en juin. La CIA, de son côté, pense que le prince Ben Salman est directement impliqué dans ce meurtre. Le corps de Jamal Khashoggi, lui, n'a jamais été retrouvé.
Et notons par ailleurs que c'est aujourd'hui que le président américain Donald Trump doit donner sa vision des faits devant le Congrès. Lui qui a toujours souhaité jusque-là préserver les relations économiques et diplomatiques avec Riyad. Ces relations-là se détériorent de jour en jour. La crise entre la France et l'Italie a franchi un nouveau cap hier avec le rappel de l'ambassadeur de France à Rome. Pour se justifier, Paris dit regretter la série de déclarations outrancières de responsables italiens, des provocations, des ingérences. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Clara.
De la rédaction internationale de France Culture. Bertrand, les provocations ont été nombreuses depuis la formation d'un nouveau gouvernement italien il y a 8 mois. Pourquoi la France a-t-elle pris cette décision maintenant ?
Eh bien, l'élément déclencheur, c'est la visite du vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio en France, mardi dernier à Montargis dans le Loiret, pour soutenir un groupe de gilets jaunes. La France avait été prévenue de ce déplacement par une simple note verbale, une heure avant l'arrivée du responsable italien. Et surtout, le chef politique du mouvement 5 étoiles avait commenté sur les réseaux sociaux son incursion en France avec cette phrase « Le vent du changement a franchi les Alpes », d'où la colère exprimée à Paris où l'on parle de provocation et d'ingérence et ce rappel hier de l'ambassadeur Christian Masset. Une décision inédite entre membres fondateurs de l'Union européenne, elle acte la mauvaise humeur du gouvernement français devant l'accumulation de signaux négatifs venus de Rome depuis que la coalition populiste s'est installée au pouvoir en Italie au printemps dernier.
Et ce matin, Bertrand, une question se pose. Cette crise entre la France et l'Italie va-t-elle, peut-elle durer ?
L'ambassadeur de France en Italie ne devrait pas être absent très longtemps de son poste, quelques jours sans doute, l'idée étant seulement d'envoyer un coup de semonce en direction de l'Italie. Cela dit, les relations franco-italiennes n'ont aucune raison de s'arranger dans un avenir proche. Tant que le gouvernement populiste sera aux affaires à Rome, les contacts resteront tendus. À l'approche des élections européennes du 26 mai, le mouvement 5 étoiles en difficulté dans les sondages tente d'exister par rapport à la Ligue bien plus forte politiquement. Ce qui explique la surenchère des provocations, notamment envers la France. Paris n'attend donc pas une réconciliation durable. Certains espèrent même une dislocation rapide de la coalition au pouvoir à Rome. Et puis, au-delà des stratégies politiciennes, des contentieux persistent entre les deux pays, sur la question migratoire bien sûr, mais aussi à propos des terroristes italiens qui ont trouvé refuge en France il y a des décennies et dont Rome réclame l'extradition.
Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, l'a d'ailleurs de nouveau demandé hier dans un communiqué, tout en marquant dans le même temps sa volonté de tourner la page. Merci Bertrand Galichet pour cette analyse de la situation en ce vendredi matin. Tension diplomatique au plus haut, nous le comprenons, elle cristallise un peu plus et c'est à noter les lignes de fracture en Europe à quelques mois des élections européennes. Des élections qui s'annoncent d'autant plus compliquées que nous ne savons toujours pas si l'Union européenne aura 27 ou 28 pays membres en mai prochain. Le Brexit s'enlise. À 50 jours de celui-ci, l'Union européenne a accepté hier de prolonger un petit peu les discussions avec la première ministre Theresa May. Il n'y a aujourd'hui toujours pas d'avancée en vue, souligne le président du Conseil européen. Partons maintenant en Iran, où l'on célèbre ces jours-ci le 40e anniversaire de la révolution islamique. Une révolution en février 1979 qui a ramené d'un exil de plus de 14 ans l'ayatollah Khomeini, premier guide de la République islamique d'Iran. Chant à la gloire de l'islam et de la nation, drapeau vert, blanc, rouge à la main, les rassemblements s'enchaînent en ce moment officiellement. Mais l'atmosphère n'est guère festive, tant la crise économique que traverse le pays est dure. L'Iran souffre toujours des sanctions américaines rétablies. De quoi désenchanter ceux qui ont fait la révolution il y a 40 ans, comme le prouve ce reportage de notre envoyé spécial Franck Madvon.
Dans ce jardin public de Shainshar, près d'Ispahan, un groupe de retraités bavardes joue aux cartes. Tous ont vécu et soutenu la révolution de 79.
J'étais l'un de ceux qui sont montés sur les toits pour crier « Allahu Akbar ». Les voisins me demandaient « Que se passe-t-il » et je leur répondais « Quoi, vous ne savez pas ?» Le chat est parti. Khomeini arrive.
L'Iran bascule en quelques jours. Khomeini est accueilli en héros par des millions d'Iraniens.
Nous étions très heureux d'avoir mis fin au joug colonial sur notre pays.
Allusion aux États-Unis qui finançaient le régime du Shah. Aujourd'hui, certains ne cachent pas leur déception. L'économie iranienne se porte mal.
J'ai 3 enfants, bardés de diplômes. Et ils n'ont pas de travail.
Un autre va plus loin.
On a fait la révolution pour améliorer la situation. Si on avait su qu'on en arriverait là, je n'aurais jamais manifesté à l'époque. Je suis déçu car le clergé ne pense jamais au peuple, il ne pense qu'à ses propres intérêts. Nos gouvernants volent des milliards. Si moi je volais 4 rials à la banque, je serais exécuté.
Ces retraités n'appellent pas à une nouvelle révolution, mais regrettent que celle de 79 n'ait pas tenu ses promesses.
C'était un reportage de Franck Madvon, accompagné de Gilles Gallinaro, nos envoyés spéciaux dans le centre de l'Iran.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La chef de la sécurité d'Édouard Philippe démissionne.
Marie-Élodie Poitou, employée à Matignon, est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans la rencontre entre Alexandre Benalla et Vincent Kras en juillet dernier. Rencontre qui s'est faite en violation du contrôle judiciaire et qu'elle nie avoir organisée. Elle quitte toutefois son poste, donc, à Matignon, et elle sera a priori réorientée vers le ministère de l'Intérieur. Dans le même temps, son compagnon, un proche des deux hommes mis en examen, son compagnon, lui, est suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, il est militaire. C'est lui qui aurait participé à la signature d'un contrat entre Alexandre Benalla et un oligarque russe. À ce propos d'ailleurs, une enquête du parquet national financier est ouverte. Et c'est assez logique ce dont Edoui Plenel, le cofondateur de Mediapart, le site d'information à l'origine de l'enquête.
Ce contrat a été négocié avec un oligarque russe totalement richissime, proche de Vladimir Poutine. Ce contrat a été discuté quand M. Benalla est à l'Élysée. Les révélations de Mediapart la semaine dernière montrent que M. Benalla est concerné par ce contrat, s'implique dans ce contrat. qu'ils cherchent à effacer les preuves qui pourraient les impliquer, y compris auprès d'une banque, la Société Générale. Et nous avons révélé que dans les sommes versées pour ce contrat de protection des intérêts immobiliers de ce monsieur en France, eh bien, nous avons montré que monsieur Benalla, via un jeu de société, je ne vais pas rentrer dans le détail, a touché, une fois qu'il a quitté l'Élysée, une partie de ces montants. Tous les gens qui ont été sollicités pour ce contrat de protection de cet oligarque russe se sont dit, mais si c'est monsieur Benalla qui nous le demande, alors qu'il est au plus près de l'Élysée, on l'a vu d'ailleurs dans l'affaire des violences du 1er mai, quand monsieur Benalla agit, tout le monde pense que c'est la présidence qui agit. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ben, ce contrat russe, eh ben, la présidence, elle est d'accord.
Edoui Plenel, journaliste à Mediapart, il répondait à Frédéric Carbone. Le procès en diffamation dans l'affaire Baupin se poursuit au tribunal correctionnel de Paris. L'ancien député écologiste poursuit donc en diffamation des médias et ses accusatrices. Il n'est pas présent au tribunal depuis le début de la semaine, contrairement aux femmes qui l'accusent d'harcèlement et d'agression sexuelle. Hier, les témoignages ont fait office d'introspection du parti Europe Écologie Les Verts, ouvertement écologiste et surtout féministe. Et puisque l'on parle de féminisme en politique ou tout simplement de parité, voici qu'un débat s'organise à l'Assemblée nationale. Il débute aujourd'hui sur le thème des femmes en politique, à l'initiative de la députée France Insoumise Clémentine Autain. Et elle a, Sophie Delpont, eu bien du mal à convaincre des hommes politiques de participer à ce débat.
Je n'ai rien à dire. Voilà la réaction à laquelle Clémentine Autain s'est le plus souvent heurtée quand elle a multiplié les invitations envers les hommes politiques. C'est quand même très étonnant de la part de personnes qui sont pourtant capables de réagir et de développer aussi longuement des idées sur tant de sujets, mais pas sur les femmes apparemment, ajoute la députée un peu amère. Déçue du refus de participer notamment de Jean-Luc Mélenchon, chef du groupe France Insoumise, de François Ruffin, le très médiatique député LFI, et de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, ancien chef du groupe La République En Marche. Il n'y aura donc pas de parité pour cette journée. 4 hommes politiques seulement pour 7 femmes politiques. Du côté des hommes, Geoffroy Didier, membre du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, a dit oui tout de suite. David Cormand, le numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts aussi. Clémentine Autain salue également la participation de Benoît Hamon au débat. Du côté des femmes, il y aura la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, la députée communiste Elsa Fossillon, la députée insoumise Danielle Obono et la sénatrice écologiste Esther Benbassa notamment. Une initiative qui a remporté un grand succès de préinscription avec plus de 600 demandes en quelques jours seulement, alors que la salle de l'Assemblée nationale prévue ne contient que 300 places. Il doit donc y avoir bien des choses à dire encore aujourd'hui sur les femmes en politique.
Sophie Delpont. Au chapitre politique encore et à trois mois et demi des élections européennes, nous zoomons ce vendredi sur les partis pirates. Ils signeront demain leur déclaration commune en vue des élections. Et pour France Culture, Anne Fauquemberg s'est intéressée de près à ces cyberpartis nés en 2006 en Suède. Elle a notamment rencontré Sven Clément, 30 ans. Il refuse l'image d'un parti confidentiel.
On a bossé pendant 10 ans pour arriver à un stade où on a un programme qui englobe beaucoup plus que ces thèmes purement digitales et qui englobe surtout des questions sociétales très profondes. Les libéraux voulaient toujours plus de participation citoyenne, la gauche voulait toujours une vie digne pour tout le monde. Les seules différences, c'est qu'ils déclinent ça toujours à travers leur vision idéologique, pendant que les pirates ont compris qu'en 2018-2019, on ne peut plus décliner la vie digne que par un travail de 40 heures par semaine pendant 40 ans, mais qu'on doit le décliner dans un système de précariat, qu'on doit le décliner dans un système d'auto-entrepreneurs virtuels, qu'on doit le décliner dans un monde où on n'a plus cette garantie de 40 heures par semaine pendant 40 ans, et donc qu'on doit trouver des nouvelles solutions aux mêmes problèmes qui ont fait naître les mouvements des socialistes, la gauche ou des libéraux dans le temps. Les pirates, en fait, déclinent juste les grands thèmes, les grands problèmes historiques d'une nouvelle manière.
Partie pirate, immersion dans les cyberpartis européens. C'est un reportage d'Anne Fauquemberg réalisé grâce à Annie Bro. Il sera diffusé ce soir à partir de 17h sur France Culture, suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer. Plus d'un millier de morts à cause de l'épidémie de grippe cette année et l'hiver n'est pas encore fini. La ministre de la Santé Agnès Buzyn reconnaît la faible efficacité du vaccin, de 59 à 19% d'efficacité seulement en fonction des types de virus. Voici les explications de Mathieu Laurent.
Le virus grippal mute tant et plus. Et l'équation se complique quand le virus H3N2, en force cette année, prend des formes bien éloignées de celles de la souche identifiée au mois de février, en vue d'une commercialisation du vaccin à l'automne, comme le montrent les analyses en laboratoire auxquelles a participé Vincent Hénouf, responsable adjoint de l'un des centres nationaux de référence de l'Institut Pasteur.
Cette année particulièrement, on a affaire à plusieurs groupes de virus H1N2. Et certains de ces groupes, dont on a les données aujourd'hui, ne permettent pas justement d'avoir une efficacité vaccinale importante. Et donc le pari, entre guillemets, que l'on fait au mois de février, peut être en partie moyen, même perdu, si le virus a énormément évolué durant ces 6 mois.
Deux virus à combattre simultanément, rien de renversant, relève Vincent Renard, professeur des universités et président du Collège national des généralistes enseignants, une instance qui depuis toujours recommande une vaccination ciblée.
Aujourd'hui, on n'a pas de données scientifiques disant qu'il faut vacciner tout le monde. À partir du moment où on n'est pas dans des populations à risque, c'est quand même affaire de choix éclairés entre le médecin et son patient. En revanche, pour les catégories qui sont identifiées plus à risque, alors là, il y a un vrai intérêt de santé publique.
Dernière donnée livrée par les autorités sanitaires, une surmortalité de 1100 décès dus à un syndrome infectieux des voies respiratoires, des décès attribuables à l'épidémie, mais ce ne sont là que des évaluations.
Le temps à présent en France, ce vendredi, il s'annonce gris et humide au nord, plus lumineux sur le sud de la Loire, avec ce matin 3 degrés à Lyon, 7 à Lille, 9 degrés à Paris, 10 degrés sur la Corse.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.